Au village d'Anatote, à une heure de marche de Jérusalem, vivait un jeune paysan du nom de Jérémie. Seul, sans femme et sans enfant, on le rencontrait dans les ruelles, devant les boutiques des artisans. On le voyait partir le matin, une besace sur le dos. Il s'arrêtait parfois, brusquement, et prononçait un oracle.
Un oracle ? Qu'est-ce que c'est ?
Un message que Dieu souffle à l'oreille d'un de ses amis pour que celui-ci informe son peuple. C'est la même chose qu'une prophétie.
Les villageois d'Anatote comprirent très vite que Jérémie était un prophète, qu'il voyait ce que personne ne voit, qu'il entendait ce que personne ne peut entendre. On sentait qu'il devinait les événements à venir, et l'on apprit bientôt que le roi l'appelait secrètement à Jérusalem pour entendre ses oracles.
C'était un poète ?
Oui, David, un poète inspiré par Dieu, tout comme Isaïe, pour remuer le cœur des hommes. Jérémie connaissait par cœur l'histoire de son peuple, celle d'hier, mais aussi celle de demain. Écoute, David, un jour, Jérémie eut la vision d'une catastrophe imminente. Il se dressa à l'entrée du village, tourné vers Jérusalem, et annonça aux passants ce qu'il pressentait.
Là-bas, au loin, c'est la route du nord, la route du malheur. Par là descendent tous nos ennemis. Notre pays est pris comme une noix dans une tenaille de fer. Écoutez, j'entends des bruits de chars qui roulent dans la nuit. Il est minuit pour moi. Une épaisse fumée s'élève au-dessus de Jérusalem. Un roi aveugle s'enfuit.
Le lendemain, le prophète Jérémie entra dans l'atelier du forgeron Tubal. L'artisan martelait un énorme chaudron de cuivre. Le voyant dit alors,
« Dieu m'a montré un chaudron comme celui-ci. La marmite fumait. Une vapeur s'élevait semblant provenir du nord. »
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les ennemis d'Israël, ceux qui viennent de Babylone, se préparent à descendre pour occuper notre pays et nous emmener en esclavage. À leur tête, les porte-drapeaux et le tout-puissant roi. Une bataille se prépare là-haut, à Kerkimish, sur la rive du fleuve. Le pharaon qui essaie d'arrêter l'ennemi à notre frontière est vaincu. Il jette son épée au pied du tyran invincible. Je vois plus tard notre roi prisonnier. On lui crève les yeux.
Silence, il arrive une voix qui vient du ciel là-haut et descend dans mon puits sur ma couche de boue. Elle vient jusqu'à moi et j'entends cette voix qui me dit.
Jérémie, Jérémie, j'ai tant donné aux hommes les mains et la parole, et ils ont tout pourri. Jérémie, Jérémie, à tes frères les hommes, va-t'en leur dire comme leurs yeux se sent trahis.
Je sais, Seigneur, les hommes sont maudits. Ils se sont fait menteurs, voleurs et assassins. Ils se sont massacrés, ils se sont pervertis. Tu leur as pardonné de
foi,
mes enfants.
Jérémie, Jérémie, j'ai tant donné aux hommes les mains et la parole. Et ils ont tout pourri. Jérémie, Jérémie, à tes frères les hommes, va-t'en leur dire comme leur Dieu se sent trahi.
J'entends, Seigneur, j'entends, pourtant tu le sais bien, que l'homme est un enfant, tu l'as fait, c'est le tien, il a besoin de toi, à cet homme incertain, une nouvelle fois, sans lui encore.
Une autre fois, Jérémie rendit visite au potier Bassaléel, un jour de marché, lorsque passent les caravanes. Les marchands achètent, en effet, des vases de terre cuite qu'ils revendent à Jérusalem. Devant la maison du potier s'entassaient des cruches, des jarres, des amphores, des lampes à huile. Le potier travaillait au tour, en étirant l'argile d'un habile coup de main. Parfois, il ratait sa poterie. Il écrasait alors la glaise et en refaisait une autre.
Écoutez, mes amis, les paroles que j'entends de la part de Dieu quand je regarde le potier. Comme l'argile obéit aux mains du potier, ainsi je veux façonner Israël. Parfois je décide de bâtir une nation, mais son peuple résiste à mon modelage. Je me ravise et la jette au rebut. Parfois je décide de détruire un royaume, mais il se corrige de sa méchanceté. Alors, je me ravise et lui donne le bonheur.
Écoute, David. Un jour, le sirocco, l'ouragan brûlant du désert, se leva brusquement en hurlant comme un fauve. Les paysans d'Anatote coururent rentrer leurs troupeaux. Jérémie, immobile dans la tempête, cria d'une voix forte:
vieux berger, poussez des cris. Jeune pâtre, roulez-vous par terre. Le lion a quitté son fourré. Dieu va dévaster les prairies.
Le lion, c'était Nabuchodonosor, le tout-puissant roi de Babylone. À la tête de son invincible armada, il devait remonter le grand fleuve et anéantir le pharaon, venu d'Égypte pour l'arrêter. Déjà, Jérémie entrevoyait la terrible défaite de Carchémish. Tourné au nord, vers la route des invasions, le prophète clamait:
aux armes, cavaliers, préparez vos boucliers, attelez vos coursiers, affûtez vos javelots, les chevaux, en avant, les chars, à l'assaut. Que vois-je à Carchémish? Le char du pharaon détruit. Le corps sonne la retraite. Des colonnes de prisonniers partent en file pour Babel.
L'Égypte vaincue, Nabuchodonosor fit savoir qu'il voulait dominer toute la terre. Un nouveau roi régnait à Jérusalem. Il s'appelait Sédécias. Jérémie vint lui dire:
de grâce, mon Seigneur, épargne ton peuple, arrête la guerre, va trouver le roi de Babylone, jette ton épée à ses pieds et dis-lui, je me rends pour éviter un massacre général.
Étant sorti du palais, Jérémie se promenait dans les rues, en portant un joug sur ses épaules. Il annonçait par ce geste prophétique que le peuple d'Israël passerait sous la domination de Nabuchodonosor. Déjà, l'armée ennemie s'avançait sous les remparts de Jérusalem. Jérémie voulut regagner son village, mais les ministres du roi l'arrêtèrent et le jetèrent en prison. Sédécias apprit la nouvelle. En secret, il fit sortir Jérémie et lui demanda:
prophète, Es-tu pour moi une parole de Dieu?
Certainement. Tu seras captif du roi de Babylone.
Sédécias ordonna aux gardes:
laissez Jérémie dans la cour de la prison et donnez-lui chaque jour sa part de pain.
Jérémie sentit que Dieu voulait lui révéler autre chose. Une sentinelle vint lui dire:
ton cousin te demande au parloir de la prison. Il veut te proposer de lui acheter un champ.
Jérémie régla immédiatement cette affaire. Il pesa les pièces d'argent, puis signa au bas d'un rouleau de papyrus. Il s'adressa ensuite à tous les témoins.
Voici ce que signifie pour notre peuple l'achat de ce champ. Notre terre nous sera rendue. Le malheur passera d'abord sur nous. Les familles seront chassées et devront s'établir en exil. Mais on reviendra au pays. On rachètera les prés, les vignes et les maisons.
Après un lourd regard sur le ministre du roi, il ajouta:
par la faute de Sédécias, Jérusalem tombera aux mains de l'ennemi.
À ces mots, le premier ministre fit saisir Jérémie. On le jeta dans un puits de boue. Mais un officier du palais obtint du roi Sédécias que l'on retire le prophète de son trou. Dans une place forte du nord, Nabuchodonosor avait installé son quartier général et hissé son pavillon. À distance, il commandait sa formidable armée.
Attaquez Jérusalem! Faites avancer les tours de guerre! Défoncez les portes de la ville! Ouvrez une brèche dans les remparts!
Sous l'assaut des béliers, la muraille craqua et les soldats s'engouffrèrent dans la capitale. Sédécias tenta aussitôt de s'enfuir par la porte qui donne sur le mont des Oliviers, mais un gardien le reconnut. Les cavaliers ennemis le rattrapèrent et l'amenèrent aux pieds du roi vainqueur. Nabuchodonosor installa à Jérusalem un gouverneur à ses ordres. Mais les résistants l'assassinèrent, puis vinrent consulter Jérémie. Ils décidèrent de se replier en Égypte et emmenèrent le prophète avec eux. Ainsi finit Jérémie, en terre d'exil. Le soir, il s'avançait seul au bord du Nil. Il pensait aux habitants d'Anatote et de Jérusalem. Il leur écrivait à la veillée une longue lettre. À l'autre bout du monde, au bord de l'autre fleuve, à Babel, se rassemblaient les prisonniers. Ils lisaient la lettre de Jérémie. C'était pour eux le courrier de l'espoir. Et reprenaient courage.
J'aime vos demeures et vous rendrez vos tentes. Sur les sept collines, la ville sera rebâtie. Son château se dressera dans les jardins en fleurs. Je conclus avec mon peuple une alliance toute neuve. J'écrirai mes pensées dans leur cœur pour toujours, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
On est venu un soir me prendre dans le noir, qui donc m'a enfermé. Sans égard pour ma peine, loin de tout ce que j'aime, qui donc m'a exilé. Il y a longtemps qu'il n'est pas revenu le printemps, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu le printemps. Il y a longtemps, je me souviens du temps du printemps. Il sa morsure me sont une blessure qui me délivrera. Le temps dure et s'allonge comme en un triste songe qui me reconnaîtra. Il y a longtemps qu'il n'est pas revenu le printemps. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu le printemps. Il y a longtemps je me souviens du temps du printemps. Il y a longtemps je m'en souviens pourtant du printemps. Un oiseau ce matin est venu de très loin. Est-ce le mois d'avril, le début ou la fin de cet exil sans fin? Et que m'annonce-t-il? Il y a longtemps qu'il n'est pas revenu le printemps. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu le printemps. Il y a longtemps je me souviens du temps du printemps. Il y a longtemps je m'en souviens pourtant du printemps.
Debout sur la rive du Nil, Jérémie aux cheveux blancs regardait vers Jérusalem. On eût dit que, de loin, la cité sainte illuminait son visage. Il priait avec ses yeux. Au même moment, au bord du Tigre, un jeune prophète nommé Ézéchiel se tournait également vers la ville patrie. Il avait des visions fantastiques. Par exemple, un étrange char de feu monté sur des roues mobiles comme des regards qui se déplaçaient dans le ciel.
Raconte-moi ce qu'il voyait.
Écoute plutôt ce que te dit Ézéchiel lui-même. Il va te révéler ses secrets.
Je m'appelle Ézéchiel. Je suis prophète entre Dieu et Israël. Voici ce que j'ai vu. J'étais là quand Nabuchodonosor a pris Jérusalem. Notre roi se rendit au vainqueur. Il sortit de son palais, jeta à terre sa couronne et son épée. Je me trouvais près de lui, ainsi que les prêtres du temple. Le roi de Babel nous fit tous mettre en rang, un baluchon sur le dos. La colonne de prisonniers, femmes, vieillards, enfants, escortés de soldats, prit la route de l'Orient. Nous arrivâmes au bord du fleuve, tout près de Babylone, ville superbe, capitale du royaume. Les musiciens du temple de Yahvé suspendirent leurs instruments aux rameaux des saules pleureurs. Quant à nous, nous regardions inlassablement vers Jérusalem et vers la demeure de notre Dieu. J'étais là depuis 5 ans déjà, au bord du fleuve Kébar, dans notre camp de prisonniers, un peu en retrait du village de Toile. Alors, l'Esprit de Dieu m'empoigna avec la violence d'un ouragan.
Lève les yeux.
Je regardais, et voici, c'était bien la tempête qui faisait rage. Le vent glacé du nord portait un gros nuage en forme de brasier. Je regardais au centre de ce feu et voici, apparaissait quelque chose qui ressemblait à 4 vivants ayant forme d'homme. Chacun avait 4 faces et 4 ailes. Les éclairs jaillissaient et une étrange lueur enrobait le tout. Les vivants étaient debout et près de chacun d'eux reposait sur le sol une sorte de grande roue. C'était comme des verrou animé. Au-dessus de la tête des vivants, espèce de voûte de cristal était tendue. J'écoutais, et voici, j'entendis comme un bruissement d'ailes qui s'enfla jusqu'à imiter le fracas de la tempête. Alors, au-dessus de la voûte de cristal, sur un trône de saphir, apparut un être à forme humaine. Une masse de feu l'entourait. La lueur qui en émanait ressemblait à l'arc-en-ciel. Je reconnus la clarté que l'on appelle gloire, et dont Dieu s'environne. Et soudain, dans un grand bruit d'ailes et de roues, je fus transporté par l'esprit. J'arrivai chez les déportés et j'y demeurai 7 jours. Sur l'ordre de Dieu, j'écrivis sur une brique le nom de Jérusalem. Puis de mes mains, je fis la reproduction en modèle réduit du siège de la ville, des tranchées, des bastions, des béliers de guerre. Je simulais la chute des murailles, l'arrestation du roi, la déportation des citoyens.
Et tes amis prisonniers, ils ne retourneront plus dans leur pays ?
Si. Un jour, ils retrouveront leur maison et celle de leur dieu. Ils se croyaient enterrés au bord du fleuve triste. Ils se croyaient morts. Mais Dieu les fera revivre. Écoute, à ce sujet, l'autre vision que j'ai eue. J'ai été transporté comme en rêve au milieu d'une vallée. On eût dit qu'une bombe était tombée dans un cimetière. Une incroyable quantité de squelettes et d'ossements humains jonchaient le sol. Le Seigneur m'interrogea.
Ézéchiel, crois-tu que ces eaux desséchées et disloquées peuvent revivre?
Toi seul le sais, Dieu Tout-Puissant.
Eh bien, c'est toi qui vas prophétiser sur ces squelettes. Tu leur parleras ainsi de ma part. Que l'Esprit entre en vous et vous vivrez.
Je prononçai les paroles que Yahvé m'avait prescrites. Et voici, j'entendis un cliquetis d'ossements, un frémissement qui saisit toute la vallée. Je vis les eaux se rapprocher les uns des autres et s'assembler, les nerfs se mettre en place, les muscles se déployer et la peau se tendre sur eux. Mais les corps restaient inertes, dépourvus de souffle. Dieu me dit,
fils d'homme, prophétise.
Je criai alors, esprit de vie, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. À ma parole de prophète, les cadavres ressuscitèrent, ils se mirent debout, grande, immense armée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dieu s'adressait ainsi aux prisonniers qui se croyaient perdus à jamais. Il disait, nous séchons ici sur place. Notre espérance est détruite, nous sommes finis. Mais Dieu leur répondait, je vous ferai sortir du tombeau. Vous vous mettrez en route vers votre patrie et vous saurez que je fais ce que je dis.
Clair matin d'automne vient d'avril, nous reviendrons après tant de périls, tant de peines, tant de chaînes, tant de pleurs de ce cruel exil. Le peuple entier au fond de sa prison se lèvera et chante l'espérance, écoute Israël.